Vous écoutez l'épisode 118 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui, la technologie est un vecteur de croissance, d'innovation, mais également de pollution. Alors si auparavant nous changions de smartphone tous les 18 mois, encouragé par les opérateurs téléphoniques et les constructeurs, les mentalités commencent enfin à changer et notre consommation également. Nous n'avons qu'une planète Terre et nous en prenons enfin conscience, alors il est important de la protéger. Grâce à cette prise de conscience, les consommateurs, mais également les constructeurs, se sont lancés un défi pour une consommation plus intelligente. Dans cet épisode, nous nous reposerons sur les engagements des géants de la technologie, alors évidemment Apple et Google, qui nous proposent des ordinateurs et des smartphones toujours plus durables. Je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné pour la première fois de Romain Leclerc, administrateur du site d'info actutech.info et aussi l'animateur vedette de podcasts comme Actutech. Bonsoir Romain, merci d'être là, comment vas-tu ?
Salut Nico, merci beaucoup pour l'invitation, bonsoir tout le monde, très content d'être là, c'est la rentrée un petit peu là, ça fait quoi 15 jours, donc voilà, le temps gris est revenu, on s'adapte.
On s'adapte effectivement, on reprend nos bonnes vieilles habitudes. D'ailleurs, tiens, on va prendre nos bonnes vieilles habitudes, on va dire bonjour à tous ceux qui sont là, bonsoir Mister Robot, bonsoir Jeux et Programmes sous Linux, bonsoir Didier, bonsoir Alien, et bonsoir à tous ceux qui ne nous ont pas encore dit bonsoir, donc n'hésitez pas dans le chat de nous faire un petit coucou, ça nous fait toujours super plaisir. Alors, il y a Alain qui me dit que mon micro n'est pas branché. Est-ce qu'on peut faire un retour, Romain, la régie
je pense que tu as le micro de ton casque là ou le micro de ton ordi, ouais.
Encore, décidément, il y a des jours comme ça, faut pas se lever. Alors attendez, je vais changer en live, vous allez me dire ce que ça donne, ça va être...
Est-ce que maintenant
voilà,
le son...
impeccable.
Merci beaucoup, merci Alain pour ta vigilance, comme quoi on a des auditeurs qui sont exceptionnels, hein, tu as vu Romain.
C'est incroyable.
Bonsoir Live Athenium. Ah, bonsoir, un grand bonsoir à toi, hein, parce qu'on sait que ce que ça t'a coûté d'être là ce soir. Donc merci beaucoup de ta présence. Ça nous touche encore plus. Romain, tu le sais, hein, le CKB Show, c'est un podcast qui est complètement gratuit et j'ai envie qu'il le reste. Il le restera donc tout le temps. Mais si vous appréciez notre contenu, la ligne éditoriale, je ne peux que vous encourager à nous soutenir sur patreon.com/mychromebook. Hein, pour le prix d'un petit expresso à Paris, hein, un tout petit, vous pouvez nous aider à produire de nouveaux épisodes et en nous permettant de financer les outils que nous utilisons. Par exemple, celui qui nous permet aujourd'hui d'échanger avec toi, Romain, et puis que tout le monde nous voit en live sur toutes les plateformes. Alors aujourd'hui, on est sur Facebook, YouTube et Twitter. Donc, n'hésitez pas à partager d'ailleurs les épisodes à tout votre entourage, à tous vos contacts. Bien sûr, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur votre meilleure application de podcast, même un commentaire si vous le souhaitez dans votre application de podcast, ça nous fait toujours un grand plaisir. Et puis, si vous nous écoutez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Un petit pouce, un petit commentaire, bref, tout ce qui permet de nous encourager nous fera plaisir. Et je vous remercie par avance pour vos différents soutiens. Voilà, je crois que j'ai fait les cas d'usage. Romain, est-ce que tu es prêt à rentrer dans le vif du sujet? Parce que l'écologie, c'est quelque chose de très important. Et la technologie, généralement, sont plutôt à l'extrême opposé de l'écologie. Sauf que ces temps-ci, Apple et Google s'énervent et essayent de faire quelque chose de beaucoup plus affirmé au niveau engagement de neutralité carbone. Tu as suivi, m'as-tu dit, la keynote du 12 septembre, je crois.
Ouais.
Du 12 septembre. Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as apprécié ou qui a retenu ton attention?
Oula, alors beaucoup de choses, parce que c'était la première fois qu'Apple faisait une intro de keynote aussi longue sur l'environnement. C'est des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant. Là, il y a eu une petite vidéo d'un peu plus de 5 minutes avec l'actrice, d'ailleurs, Octavia, je ne sais plus son nom de famille, qui joue dans une des séries d'Apple TV, d'ailleurs. Et ils ont mis en place une vidéo pour montrer qu'Apple travaillait sur la neutralité carbone, pour arriver à être neutre en carbone à l'horizon 2030. Donc une vidéo, on va dire un peu cringe, un peu gênante par moment, parce que il y en avait pour la première fois Tim Cook, qui jouait son propre rôle. Et c'est pas un très très bon acteur, faut le dire. Hein. Il était pas, il m'a fait rire un peu, mais il y avait un petit côté gênant dans cette façon de faire. Il y avait l'esprit marketing d'Apple derrière une vidéo un peu maladroite. On voit qu'ils ont pas l'habitude de parler d'environnement régulièrement, en tout cas pour vendre leurs produits. Je sais pas si j'avance, mais tu sais ça a été montré uniquement pour enchaîner sur l'Apple Watch qui arrivait derrière et qui est le premier produit Apple neutre en carbone, l'Apple Watch série 9.
Ouais, effectivement, la nouvelle Apple Watch. Alors ils ont annoncé deux Apple Watch d'ailleurs. Ouais. Je crois que tu en as parlé dans ton podcast samedi d'ailleurs. Écoutez-le, oui. Si jamais vous n'avez pas encore écouté, c'est quoi? C'est 10 minutes, un quart d'heure de pure information hyper intéressant. Allez-y. Je remettrai les liens dans les notes de l'émission d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas. Donc l'Apple Watch, ils l'ont mis énormément en avant pour la neutralité carbone, hein, des matériaux innovants, l'électricité propre, des transports bas carbone, bref, elle n'existerait presque pas si on l'écoute, parce que tout ce qui a été fabriqué, c'est 20% de matériaux produits par Apple en 2022 qui sont issus de recyclage, de renouvellement d'appareils. Donc, quand tu amènes une ancienne montre, ils vont venir te la démonter pour récupérer la moelle substantielle, les matériaux les plus intéressants pour aller refabriquer d'autres matériels. Donc, en ça, c'est très, très bien. Hein. Et Apple s'engage, comme tu le disais, à être totalement neutre à partir de 2030. Alors, il faut savoir que je crois que c'est une obligation. Hein. 2030, c'est la butée maximale pour tout le monde. Tous ceux qui ont signé le Grenelle de l'environnement. Donc, donc c'est pas un choix stratégique, mais dans la vidéo, d'ailleurs, on le voit, Madame Nature, comme elle s'appelle, explique que vous faites quoi? C'est pour dans 2030, vous attendez que les autres fassent avant de faire et ils se défendent en amenant leurs différents services. Oui, notre électricité chez nous, elle est 100% décarboné avec l'éolien, le solaire. C'est ça. Donc, ils vont quand même beaucoup dans cette vague-là. Et je trouve ça quand même intéressant qu'une société comme Apple, qui est souvent un déclencheur chez les autres, tu vois, il y a aussi.
Ils influencent simplement les marchés, hein, complètement. Hein. Quand Apple prend une décision sur un produit phare que d'autres concurrents proposent, généralement, toute l'industrie suit, peut-être pas l'année qui suit, mais au bout de 1 ou 2 ans, tout le monde suit derrière. C'est une entreprise modèle pour ça. Après, bon, j'ai suivi beaucoup de débats qui disaient, ils sont en train de faire du greenwashing à fond. Indirectement, on pourrait penser que oui. En même temps, s'ils ne le faisaient pas, on leur reprocherait aussi. C'est-à-dire qu'on leur dirait, les gars, vous faites rien pour l'environnement. Donc, bon. Ils se sont dit, quitte à le faire, autant qu'on le montre, autant qu'on en fasse de la publicité, ça ne peut pas faire du mal au business. Et puis, il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est qu'Apple, ce n'est pas une société écologique. Apple, c'est une entreprise. Et le but d'une entreprise, c'est faire de l'argent, ce n'est pas sauver la planète. Alors, ils se servent de plans marketing pour mettre ça en avant, mais on dirait un peu les discours d'Elon Musk par moment qui veut sauver le monde, tu vois. C'est des entreprises. Donc, ils sont là pour faire des pépettes et ils sont très bons pour ça, d'ailleurs. Après, ils le font. Donc, pourquoi ne pas en faire de la pub?
Ils le font bien, hein, comme tu le dis, hein, ils poussent les autres consommateurs, les autres constructeurs, on l'a vu dernièrement, alors ça a été décrié, mais le fait qu'ils ne mettent pas l'embout de charge dans leur boîte, ça a permis de diminuer la taille de la boîte de leurs iPhones, de leurs iMac et compagnie, ce qui fait qu'on peut en transporter plus dans des mêmes containers qu'habituellement. Donc on peut toujours vendre plus en consommant moins, grâce à moins de déchets, les cartons plus petits, les boîtes plus petites. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils ne mettaient plus de plastique dans les boîtes d'iPhone, donc tout était cartonné.
Plus de cuir
avec les montres.
Pour les bracelets. Hermès qui suit d'ailleurs, qui quand même, faut le savoir, Hermès c'est français, c'est une grosse entreprise de luxe pour le cuir, pour qu'Hermès décide de... Enfin, en fait, ils n'avaient pas trop le choix, ils ont un accord énorme avec l'Apple Watch, ils vendent des bracelets à profusion. Peut-être pas pour des gens, enfin après je connais pas le budget de tout le monde, mais c'est pas donné, hein, c'est des bracelets qui coûtent une blinde, hein, c'est pour des gens assez aisés. Pour que Hermès suive, c'est que vraiment Apple a dû quand même dire, les gars, là on peut plus faire du cuir, donc si vous voulez rester chez nous en collaboration, va falloir changer. Donc Ils ont maintenant des. Ils ont appelé ça un textile recyclé. Ils ont un nom en anglais d'ailleurs. Je ne me rappelle plus exactement comment c'était, mais voilà, ils vont utiliser pas mal de nouvelles matières qui ressemblent d'ailleurs à du cuir, même pour les coques d'ailleurs des iPhones. On aura une sorte de simili-cuir basé à partir de plastique. Et puis aussi des plastiques d'Apple Watch en. Alors c'est un peu moins joli parce qu'on voit les éclats de plusieurs
Moi, j'aime
couleurs.
bien, moi, perso.
Mais voilà, après, c'est une question de goût, hein, tout
C'est
simplement.
ça.
Et puis bon, après, dans l'idée du greenwashing avec Apple, le problème, c'est surtout, par exemple, si on prend un exemple comme l'Apple Watch Ultra, qui est leur montre très haut de gamme, qui est à 899 euros, je crois, au prix de départ cette année. Pourquoi avoir sorti une Apple Watch Ultra 2 un an après avoir sorti le modèle Ultra, sachant que là, on n'a pas vraiment de grosse amélioration par rapport au premier modèle. Donc voilà, d'un côté, ils vantent l'écologie de manière assez maladroite pendant 5-10 minutes, et d'un autre côté, on a des téléphones qui sortent tous les ans, et on a des produits qui sont renouvelés tous les ans, alors qu'ils pourraient quand même se permettre de le faire tous les 2 ans. Après, comme je disais, c'est l'entreprise, donc s'ils le font, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. Et je pense que le plus gros problème là-dedans, c'est les consommateurs. C'est-à-dire que si les gens prenaient la responsabilité de se dire, mon téléphone, je le garde jusqu'à qu'il soit HS, ou même, allez, admettons, 4-5 ans, jusqu'à qu'il n'y ait plus de mise à jour. Je pense que si les téléphones se vendaient moins, Apple sortirait des téléphones tous les 2 ans. Mais les gens achètent et donc le problème reste le même. Tous les ans, on a un nouvel iPhone, on a une nouvelle Apple Watch, on a une nouvelle Apple Watch Ultra, et des nouveaux iPads, etc., etc. Donc je pense que c'est
Mais
surtout l'habitude des gens, quoi. C'est les
c'est ça, mais de toute
consommateurs.
façon, Apple, au début, tu te souviens, c'était un iPhone par an. Et
Oui.
c'était pas quatre. Aujourd'hui, c'est quatre iPhones,
Ouais.
c'est deux Watch, c'est. Alors, ils n'ont pas parlé d'iPad, mais ça aurait pu être un iPad.
Oh, ça n'a pas
Bref.
tardé. Hein.
Voilà. Et la Watch, effectivement, on est nombreux pour la Watch Ultra à se poser la question. C'était censé être une montre qui allait durer dans le temps. Et il n'y a pas tant d'innovations pour sortir une version 2. Mais bon. Comme tu le dis, il faut bien qu'ils gagnent de
Elle se
l'argent.
vendra. Elle se
Ouais,
vendra.
bah,
Elle
elle
se
va se vendre,
vendra.
oui, évidemment. Apple fait pas que ça, d'ailleurs. Hein. Donc, on l'a dit, ils utilisent des matériaux recyclés pour la plupart de leurs produits. Ils sont des produits qui sont quand même durables, réparables et reconditionnables. Aujourd'hui, le marché du reconditionné dans le smartphone, clairement, c'est Apple. On voit rarement moins, en tout cas, les smartphones Samsung, enfin Android, hein, pour pas citer de marque, dans le reconditionnement. Il y a plus de produits Apple qui s'achètent dans le reconditionnement. De par leur prix, hein, de départ quand ils sont neufs, et puis par leur durabilité, puisque Apple met à jour quand même ses produits plus de 5 ans, donc ce qui n'est pas négligeable. Et si tu veux le garder longtemps, ton iPhone, c'est possible, hein, ce qui n'était pas forcément le cas avec tous les produits Android. Et on le voit avec les Pixel chez Google, ça commence à venir et on commence à
Oui.
avoir des produits vraiment équivalents.
Google, Samsung ont fait des gros efforts là-dessus. Hein.
Ouais.
Ça suit maintenant. Beaucoup mieux.
Ouais, et si les appareils chez Apple sont en fin de vie, ça peut arriver, hein, ils cassent ou tout simplement ils arrivent à hein, 5 ans. Si tu arrives à les retenir 5 ans, c'est déjà pas mal. Apple a même créé des machines de désassemblage. Tu en avais entendu parler, Daisy, Dave, Taz, qui permettent de démonter l'appareil sans aucune intervention humaine. Tu mets ton téléphone dedans. Et la machine, un bras robotisé, hein, ni plus ni moins,
Ouais.
va venir démonter pièce par pièce pour recycler tout ce qui est possible de recycler. Donc récupérer les matériaux dits rares, les matériaux, les terres rares comme l'or, le cobalt, le tungstène. Tout ça, c'est des produits qui sont aujourd'hui de plus en plus compliqués à obtenir. Donc il faut creuser de plus en plus profondément sur la terre. Et puis, ben, évidemment, avec des conditions exécrables pour ceux qui le font et des prix de plus en plus important. Et en récupérant ça, ben Apple peut recycler ça et les réinjecter dans des nouveaux produits. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à faire une empreinte carbone neutre, c'est en ne créant pas de nouveaux déchets, si je peux l'appeler comme ça, puisque le produit, une fois qu'il est conditionné et fabriqué, ça devient un déchet, hein, ni plus ni moins. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. J'ai plus les chiffres, mais je crois que c'était assez impressionnant. Assez, une tonne de composants d'iPhone recyclés équivaut à l'or et au cuivre de 2000 tonnes de minerais. Récupérer donc quand même du simple au double, c'était plutôt intéressant. Et Apple vise donc 100% de terres recyclées, de terres recyclées, rares recyclées, dans le cobalt, l'étain et ainsi de suite pour tous ces prochains produits. Donc moi, je pulsois, je trouve ça quand même très très bien. Et évidemment, ils ne vont pas arrêter de fabriquer des produits parce que bah, c'est quand même comme ça qu'ils vivent. Donc je serai à leur place, je ferai exactement pareil. Et
Oui,
pourquoi s'en
ils ont besoin
priver?
d'argent, ils n'en ont pas beaucoup en plus chez Apple. Ils ont
Ouais,
beaucoup d'argent.
c'est ça.
Ils ont des problèmes tous les ans à boucler les budgets, les budgets. C'est compliqué.
C'est compliqué. S'ils veulent racheter Disney, ils ont besoin d'un petit peu d'argent. Voilà. Une chose intéressante que moi j'ai notée dans cette keynote, vraiment qui m'a vraiment plu, c'est que sur les iPhone 15, 15 et 15 Pro évidemment, mais également les AirPods, ils ont enfin introduit les connectiques USB-C dans leurs iPhones. Enfin, je dis, ça fait 3 ans, je crois, que c'est obligatoire. Et ils avaient contourné les lois, les petits malins chez Apple, en mettant
USB-C. Ils ont jusqu'à décembre 2024 décembre 2024. Ils ont été malins de le faire un an avant d'ailleurs, parce que ils n'ont pas attendu la dernière minute pour. J'y viendrai après, mais ils avaient le temps encore. Hein, ils auraient pu faire ça avec l'iPhone 16. S'ils voulaient.
Ouais, mais de ce que je comprends, ouais, effectivement, c'est de fin 2024, effectivement. Mais de ce que je comprends, c'est que chaque appareil qui serait vendu après cette date-là devra être obligatoire en USB-C. Ce qui veut dire que.
Dans le catalogue, oui.
Ouais, dans le catalogue. Ce qui veut dire que l'iPhone 13 va disparaître. Oui. L'iPhone 12, bon, ben, il a eu quelques défauts problématiques dernièrement, mais ça va être réglé via une mise à jour. En gros, leur catalogue va d'un seul coup diminuer de 80% de produits.
Voilà, justement qu'ils ont pas attendu.
C'est ça, comme ça, le 14, à la fin 2024, il y aura le 15, donc ce sera le 16 l'année d'après.
Voilà.
Donc ils auront 3 ou 4 produits en vente à des prix abordables. D'ailleurs, petite news, les prix étaient plutôt intéressant dû à l'inflation qu'à la différence euro-dollar qui fait qu'on a l'impression qu'Apple a diminué leurs tarifs, mais non, pas du tout. Ils gagnent exactement la même somme, c'est juste la différence de monnaie qui fait qu'on a la chance en Europe d'avoir des prix plus intéressants. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que les chargeurs, là, tous ces chargeurs qui étaient en Lightning deviennent aujourd'hui polluants. Donc, tu peux acheter un adaptateur Lightning USB-C si jamais tu as besoin. Apple se fait une joie de te le vendre. Je crois que c'est 35 euros.
C'est pas vraiment d'intérêt, mais c'est compliqué. En fait, le problème, c'est que le Lightning est très très lent, et c'est ce qu'on reproche au Lightning depuis des années. Si tu fais un peu de vidéo ou que tu as beaucoup de photos à transférer sur un Mac par exemple, ou même n'importe quel ordinateur, le Lightning, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Là, d'avoir choisi l'USB-C, déjà les iPads l'avaient déjà, les Mac l'avaient déjà. C'était le dernier produit de la marque avec évidemment les AirPods ouais. Toutes les gammes d'AirPods, je crois même. Oui, je vois le 13 et 14. Oui, mais ils seront à l'occasion. L'occasion, c'est pas pareil que dans le. C'est pas pareil que sur le
Live Athenium qui nous dit que le 13 et 14 seront toujours vendus, mais effectivement, l'occasion ne sera pas impactée de la même manière, effectivement. Pour revenir sur le chargeur, tu savais que les chargeurs, ça représente 11 000 tonnes de déchets électroniques par an.
Ah, c'est énorme.
C'est énorme.
Et c'est pour ça qu'Apple. Se retrouver avec plein de chargeurs de côté. Là, il faut savoir aussi que le Lightning, ça les arrangeait pas au départ parce qu'ils touchaient de l'argent, puisqu'il y avait les câbles MFI, Made for iPhone, et donc les constructeurs, même si ce n'était pas fabriqué par Apple, quand ils mettaient le logo MFI, Apple touchait une commission. Alors, pour contrer un petit peu cette perte d'argent, ils ont fait des petites magouilles avec l'USB-C. Donc, on pourra utiliser des câbles USB-C avec un iPhone 15, avec un iPhone 15 Pro. Cependant, on sera sur le 15, on est sur du USB-C 2.0. Donc, c'est, si je ne dis pas bêtise, c'est un peu plus de 950 mégaoctets par seconde en transfert. Et là où ils ont été très forts, c'est de mettre sur le 15 Pro un USB-C 3.0 Thunderbolt 4. Qui va jusqu'à 10 gigaoctets de transfert par seconde, c'est énorme. Et du coup, Apple nous vend évidemment un câble MFI Made for iPhone spécifique pour les taux de transfert de la grosse bête, quoi, qui sont gérés par le nouveau processeur, d'ailleurs, c'est le A17 ouais. Pro. Voilà. Donc, ils sont forts, ils arrivent quand même à.
Effectivement.
Vous voulez qu'on mette de l'USB-C, les gars, il n'y a pas de problème, on va trouver un truc, on va faire des réunions brainstorming, on va trouver un truc pour vous vendre du câble de chez Apple et pas celui du concurrent. Voilà, il y a toujours ce côté-là.
Il y a une chose, Je vais défendre Apple, ce sera la première fois et la dernière fois ce soir, pour le câble USB type 3 en 10 gigabits. Est-ce que tout le monde en a réellement besoin ?
Non,
est-ce que
non.
Ça ne touche pas une niche pro ? Et le fait de ne pas l'avoir intégré dans le produit, ça permet de faire baisser un peu le coût. Oui. Parce que là, je l'ai vu, là, on a dit à 175€, c'est ça, un truc comme ça, le câble USB 3 à 10 gigas. T'imagines, s'ils mettent dans tous les iPhone 15 Pro, bah, ça augmente le prix de 175€. Quoi. Donc, ça permet d'avoir un produit plus abordable.
Il y a souvent des gens qui prennent, ils veulent avoir absolument l'iPhone le plus puissant, le plus grand, et donc ils se dirigent vers des iPhone 15 Pro. Il ne faut pas oublier que dans iPhone 15 Pro, il y a Pro, et Pro, ce n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que pour les usages qu'on a d'un téléphone chaque jour, ça sert absolument à rien d'avoir un modèle pro si c'est pour faire du Snapchat, du WhatsApp et compagnie, faire 2-3 vidéos de famille et quelques photos de vacances. Aucun intérêt. Par contre, pour les vidéastes, les professionnels, là, par exemple, le câble permettra directement de filmer, de stocker sur du SSD directement depuis l'iPhone. C'est un usage pro. Personne ne va faire ça en dehors. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas dans le professionnel, qui n'est pas vidéaste ou monteur ou ce genre de choses, n'a absolument pas besoin d'avoir un modèle pro, quoi. Et d'avoir ce câble-là, d'ailleurs.
Mais tu as raison. Hein, et souvent, je fais la comparaison. Donc, est-ce que tu as besoin. Moi, la meilleure voiture du monde, ce serait une Formule 1. C'est celle qui va la plus vite. On est d'accord.
Mais c'est ça.
Est-ce que tout le monde a besoin d'une Formule 1 pour aller faire ses courses à Auchan, Carrefour, Mammouth et compagnie? Ouais, je suis vieux. Ouais.
Voilà, donc, j'ai connu Mammouth, t'inquiète pas. On est deux.
Donc, ouais, tu vois, c'est exactement ce que tu dis. On n'a pas. En fonction de nos besoins, on n'est pas obligé d'aller sur du 15 Pro. Mais bon, ça reste.
Même
très,
sur
très
du
bon
15, hein, si tu es déjà sur un iPhone. Je parlais avec Sylvain la dernière fois, il me disait, moi j'ai le 14 ou le 14 Pro. Il me dit, je ne vais pas aller sur un 15 cette année, ça ne sert absolument à rien. Il n'y a pas de grosse différence notable pour changer d'un an sur l'autre. Quoi. Après, voilà, c'est une question de morale et c'est une question de choix personnel, hein, de toute façon.
Je suis d'accord avec toi. Alors, du coup, Apple fait des efforts, il veut gagner toujours des sous quand même, mais ils font des efforts écologiquement. Et du coup, ça nous permet de rebondir sur notre deuxième sujet qui est, à mon avis, le plus important dans le podcast, forcément, dans le CKB Show. On va parler de Google parce que Google, lui aussi, fait des efforts. Alors, ça se remarque moins parce qu'ils n'ont pas de plateforme Google TV+, tu vois. Ils ont pas ça, donc ils n'ont pas d'acteurs. Ah là là, priorité au direct, je suis désolé, Romain, mais tu le sais, le direct est toujours prioritaire surtout. Jean-Luc arrive dans le chat et merci Jean-Luc pour ton super sticker, comme d'habitude. Il ouvre le train de la hype, comme diraient certains autres podcasteurs. Merci à toi Jean-Luc, c'est toujours un plaisir. Je sais plus quoi dire, je t'enverrai un petit bisou en privé pour te remercier, c'est vraiment sympa. Donc comme Jean-Luc, vous pouvez nous soutenir évidemment sur YouTube. Il y a des super stickers. Vous pouvez nous soutenir via patreon.com/mychromebook. Vous pouvez nous soutenir en partageant évidemment nos contenus sur tous les réseaux sociaux. Et comme dirait Live Athenium, c'est la pause. Le prix de la pause, c'est 20€. Quand vous voulez qu'on se taise ou qu'on arrête de parler du sujet, il suffit de mettre 20€ dans la caisse et puis on passe à autre chose. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Jean-Luc, comme d'habitude, je laisse ton super sticker, ton super autocollant affiché jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui le rattrape. Mais comme d'habitude, personne ne sera à ta hauteur. Merci encore à toi. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, Google n'a pas de super acteurs pour faire des super productions hollywoodiennes pour parler de l'écologie. Donc, eux, ils le font simplement sur des sites web. Et ils en parlent plutôt bien. Parce que tu te souviens, il y a quelques temps, il y a Google qui s'est fait attaquer sur les Chromebooks, on en parlait à la préparation, par une association de consommateurs, une ONG, Public Interest Research Group, donc PIRG, qui avait fait une étude autour des Chromebooks dans le milieu scolaire aux États-Unis en annonçant simplement que les Chromebooks créaient une pile de déchets électroniques par leur mort prématurée. En gros, au bout de 3 ans, puisqu'ils avaient été achetés pendant l'épidémie de Covid. Et 3 ans plus tard, ces Chromebooks étaient prêts à partir en déchetterie. Mais du coup, Google a rebondi, et nous a gratifié dernièrement d'une super nouveauté. Je crois que c'est mardi aussi, hein, je crois que c'est début de semaine dans mes souvenirs. Oui, oui. Il nous parle de ça. Et donc, Google a conscience que les Chromebooks, les ordinateurs sont des appareils qui peuvent durer longtemps, qui ont besoin de durer longtemps. Ils veulent que les Chromebooks soient une référence en la matière. Donc déjà, d'une part, pour ne pas créer du déchet, mais aussi accompagner les étudiants dans toute leur scolarité, de la petite école à la plus grande. Donc pour ça, il faut des appareils de longue durée avec des capacités et des mises à jour importantes. Et tu l'as vu, Romain, jusqu'à présent, les Chromebooks avaient, quand ils ont été lancés, c'était 3 ans de mise à jour, tout au début, en 2012. Ensuite, c'est passé à, je vais dire une bêtise, je crois qu'ils avaient sauté 5-6 ans, et puis ensuite 8 ans, il n'y a pas si longtemps. Malgré tout, les écoles avaient acheté des Chromebooks entrée de gamme, c'est ce que tu me disais pendant la préparation. C'est pas forcément très cher, donc c'est sûr, si tu mets 100 € dans un produit, ça sera pas la même qualité qu'un iPhone à 1 253 €. Et donc, les écoles avaient acheté des produits un petit peu entrée de gamme, et du coup, on se retrouvait avec une tonne de déchets. Et donc, Google a relancé une nouvelle vague de mise à jour. Je te laisse. Est-ce que tu as vu ça et qu'est-ce que ça t'a fait penser quand ils ont annoncé ces fameux 10 ans de mise à jour pour les Chromebooks ?
Eh ben écoute, une très bonne nouvelle. C'est quelque chose que, de toute façon, ils étaient obligés de réagir après une si mauvaise pub. Alors que dans leur publicité, on en voit de plus en plus en France des pubs pour les Chromebooks, surtout à la rentrée. Là, j'en avais vu passer quelques-unes sur les chaînes télé, notamment, même à la radio par moment. Et effectivement, ils ont une très très mauvaise publicité et ça tombait vraiment pas au bon moment pour eux qui veulent peut-être équiper des écoles aux US, par exemple. Et puis la difficulté aussi qu'ils peuvent avoir, c'est que la concurrence. Alors je c'est pas pour reparler d'Apple, mais il y aurait une petite news. Alors c'est pas encore sûr, et en fait ça a peut-être dû faire réfléchir un peu Google, parce que apparemment il se pourrait que dans quelques mois Apple vienne sur le terrain des Chromebooks avec un MacBook qui serait dans les, on va dire, dans les tarifs des Chromebooks. Alors, faut pas rêver, c'est quand même Apple, ça sera pas 300 € le MacBook, mais et je pense qu'il y a aussi, tu vois, ce côté de chez Google de se dire, ah, les gars veulent venir nous chercher. Alors il y a pas que ça, il y a aussi cette mauvaise publicité dont tu parlais. Et puis honnêtement, quand on voit les specs d'un Chromebook et la légèreté de l'OS, la manière dont il est construit, ça leur coûte pas grand-chose, en fait, de prolonger un suivi de mise à jour. Moi, pour te donner un exemple, j'ai un Chromebook qui est en 32 bits, que j'ai payé 200 €, c'est le 314. Tu vois, il me semble qu'il y a, je sais plus si c'est Didier ou Jean-Luc qui a exactement le même, d'ailleurs. Et c'est une machine, par exemple, qui est encore bon jusqu'en 2028, tu vois. Ouais. Et c'est un petit ordi de rien du tout. De savoir que je vais pouvoir le garder 10 ans, moi je suis ravi, ça ne va pas coûter grand chose. Et là, on parle vraiment d'écologie, du coup, tu vois, on est vraiment dedans. C'est beaucoup plus sérieux de mon point de vue que certaines autres marques, par exemple, pour ne pas citer Redmond, tu vois, la firme de Redmond, qui eux, bon, au niveau. Après, c'est compliqué, le marché est très éclaté, mais c'est une bonne nouvelle en tout cas. Moi je suis très content, ça fait plaisir.
Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'ils rajoutent donc 2 ans de mise à jour supplémentaire, et ce, gratuitement. Ça aurait pu être payant. Certains, donc tous les Chromebooks ont été fabriqués. Alors, je dis bien fabriqués, pas commercialisés en 2021. Donc, ce n'est pas parce que vous l'avez acheté en 2021 que le produit n'a pas été fabriqué 3 ans ou 4 ans auparavant. Attention, vérifiez bien ça. Mais tous les Chromebooks qui ont été fabriqués, conçus en 2021, bénéficient automatiquement de cette mise à jour de 10 ans. Et ce qui est génial, c'est que, comme tu l'as dit, un Chromebook que tu as acheté 150, 200 € 300 €, parce que le marché de l'occasion du Chromebook, il est vraiment intéressant aujourd'hui, parce que les gens ne connaissent pas les Chromebooks et te revendent ça à des prix dérisoires sur Le Bon Coin. J'ai vu sur Vinted, là, je regardais ce matin, si vous en cherchez des pas chers, il y en a à l'appel, et avec des mises à jour donc de 10 ans. Moi, mon Spin 713, il va jusqu'en 2030. Je crois qu'il a gagné quelques années en passant, et c'est juste bluffant. Et quand on se dit qu'ils font des mises à jour, c'est des vraies mises à jour très intéressantes, puisqu'on aura la sécurité est propre à Chrome OS, le démarrage vérifié, l'auto-vérification à chaque démarrage, donc dès qu'il vérifie la version de l'OS, pour être sûr qu'il n'est pas altéré ou compromis par un malware, par quoi que ce soit, en fait. Ton ordinateur, il se répare tout seul automatiquement, tu vois, tu n'y connais rien, c'est pas grave, c'est un outil. Et avec cette mise à jour, en fait, tu as une mise à jour de sécurité qui va être là pendant 10 ans, donc tu es serein, tu utilises ton Chromebook aujourd'hui. aujourd'hui de la même manière que tu l'utiliseras dans 10 ans. Alors, sauf si entre-temps, on les a inventés d'autres nouvelles technologies hardware, matérielles, mais si c'est logiciel, ton Chromebook, il servira toujours de la même façon. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Je ne sais pas, dans le chat, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez.
Bah, oui, déjà,
Jean-Luc nous dit que le Vero, lui, il est passé en 2032. 2032, tu te rends compte?
Et puis, il y a une chose qui est notable, en plus, sur les mises à jour, c'est si, pour avoir été longtemps, c'est pas très longtemps que je suis sur Chrome OS, hein, ça fait 4 ans, je pense. S'il y a bien un OS qui évolue plus vite que les autres en termes de fonctionnalité et qui est mis à jour tous les mois, moi, quand j'étais sous Windows à l'époque, je ne voyais pas énormément. Il fallait attendre une version majeure pour avoir des nouveautés notables, tu vois. À la vitesse où va Google dans le développement de Chrome OS, et le truc le plus marrant à faire, c'est reprenez un Chromebook avec une version de je sais pas, 96 de Chrome OS et prenez la dernière version, comparez, merci. Vous allez voir, c'est hallucinant, quoi. C'est le jour et la nuit. Il y a énormément de choses qui arrivent régulièrement. Alors, imaginez en plus, quand vous allez jusqu'à 2030 et pendant 10 ans, d'être sûr d'avoir plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent tous les mois. Moi, je trouve ça parfait. Pour moi, c'est l'ordinateur parfait. Il n'y a rien de plus à dire, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et bon, après, certains diront qu'ils avaient pris tellement de retard qu'heureusement qu'ils lancent des mises à jour régulières pour rattraper leur retard. Mais il y a des fonctionnalités. Je suis d'accord. Typiquement, au départ, c'était compliqué. Et moi, je suis arrivé en 2012 sur le marché du Chromebook. Je peux te dire qu'il fallait être déjà sacrément maso pour jouer avec ces produits-là au début. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exceptionnel. L'interface, alors, c'est des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, des nouvelles connectivités aussi entre les appareils. Donc, on voit aujourd'hui les pixels qui sont liés, Android pour être plus général, qui sont liés à Chrome OS via PhoneHub, via une tonne d'applications. Il y en a d'autres qui arrivent. Vous allez voir, ça va être assez sympa aussi. Il y a Jean-Luc qui nous dit le Vero est le premier Chromebook Plus, est l'un des premiers Chromebook Plus. Oui, on l'a vu dans le dernier épisode du podcast que Google segmentait pour mettre un petit peu en avant ses produits. Et effectivement, le Chromebook Plus, donc les produits considérés plus haut de gamme, avec des composants bien particuliers. Et puis la crosse, on en reparlera un petit peu, la crosse qui arrive également sur Chrome OS. Donc, même quand ton Chromebook ne sera plus à jour dans 10 ans, ta navigation Internet sera toujours sécurisée grâce à la mise à jour du navigateur Chrome, qu'on appelle aujourd'hui Lacrosse, mais qui va redevenir Chrome dans quelques années, je pense, et qui arrive. Et moi, j'utilise celui-ci maintenant en permanence, et c'est assez intéressant, même bluffant, c'est que je reçois des mises à jour régulières. Je suis en canal dev de mon Chromebook, donc tous les 5-7 jours, je reçois des mises à jour plus ou moins petite en fonction de la mise à jour. Mais entre-temps, j'ai quand même reçu des mises à jour Chrome. Donc, en fait, je ne cesse d'avoir des mises à jour sur mon Chromebook en permanence. C'est vraiment super sympa. Et je me dis que je vais avoir ça pendant plus de 10 ans parce que grâce à la crosse, on aura encore plein d'autres mises à jour. Il y a Dominique dans le chat qui me dit « Mon 713 devait aller jusqu'en 2028. Ma pré-vérification, effectivement, c'est 2030. » Oui, 2030, j'ai eu la même surprise que toi, Dominique. Je pensais, en 2028, me dire « Bon, ça y est, il a bien vécu. » Mais non, 2030, quoi. Enfin, c'est le futur pour moi. Les voitures voleront normalement à ce moment-là.
Ouais, et puis, il faut partir du principe que nous, on est quand même des gens fans de tech, tu vois. Imagine, tu achètes un Chromebook pour ton enfant qui en a besoin pour l'école. Admettons, il a 14 ans et tu en as un deuxième qui a 10 ans. Ben, quand le grand aura fini de se servir, l'autre petit pourra toujours s'en servir. 10 ans, c'est long, quoi. Il faut se rendre compte que c'est long, très, très long.
Tu as 10 ans, l'autre, il a 20 ans maintenant.
Ben voilà, c'est ça. Et voilà. Et puis,
il
s'abonne au CKB Show derrière.
Et voilà. Mais il y a Jean-Luc qui en parlait d'ailleurs qu'à l'école, les deuxièmes années, je crois, les dernières années revendent leur appareil aux premières années. Et du coup, le marché de l'occasion va se faire tout naturellement et ça va être hyper intéressant. Moi, je suis curieux de voir comment tout le monde va s'emparer de cette technologie au fur et à mesure. Tu seras à la retraite avec ton Chromebook. Peut-être. Ils vont repousser indéfiniment. Peut-être jusqu'à ce que je sois en retraite. Alors, ils vont repousser longtemps, les pauvres. Nouveau processus de réparation rapide aussi, on le sait. Les Chromebooks, ce qui est intéressant avec eux, c'est que déjà, ils sont hyper sécures. Au niveau logiciel, tu peux pas ou peu avoir de problématiques au niveau virus, malware. Le plus gros problème, finalement, ça va être l'utilisateur qui fait n'importe quoi avec ses identifiants mot de passe à les mettre un peu partout et le même partout. Aujourd'hui, il y a des écoles, en fait, qui ont mis en place des programmes de réparation en interne pour prolonger la durée de vie d'un ordinateur portable. Alors, c'est déjà existant pour les appareils Windows, Mac et compagnie. Hein. Ce n'est pas une nouveauté inventée par Google. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les écoles peuvent réparer eux-mêmes leurs produits. Et il y a Google qui a fait un sondage d'ailleurs hein, pour savoir ça. C'est quand même 80% des écoles qui utilisent des Chromebooks qui les réparent en interne. Donc, c'est juste énorme. Et ça veut dire que le Chromebook, ça a quand même été c'est quand même un produit assez simple à réparer. Et ça va l'être de plus en plus avec des composants qui ne seront plus soudés. Des tournevis, on en parlait avec Acer, des tournevis cruciformes te permettent d'ouvrir simplement. Tu n'as pas besoin d'un tournevis spécifique, étoile et compagnie. Et Google va pousser le programme de réparabilité des Chromebooks dans les écoles pour trouver des pièces détachées un petit peu plus facilement. D'ailleurs, c'est ce que l'ONG avait dit, hein, c'est qu'on peut peut-être le démonter, mais on ne trouve pas les pièces. Google l'a bien entendu, merci à eux finalement, l'ONG a bien fait son travail d'alerte et Google a entendu et va mettre en place avec leurs partenaires Acer, Dell, HP, Asus et compagnie, des guides pour réparer et des pièces, des magasins de pièces détachées pour pouvoir réparer ton écran, ton clavier. Parce qu'on le sait, enfin, je ne sais pas si tu as eu des enfants qui ont des appareils électroniques, mais on sait que dans leurs mains, ça ne dure pas 10 ans non plus, quoi. Je ne sais pas si tu as un retour là-dessus, mais c'est difficile de faire perdurer un ordinateur ou un smartphone très très longtemps.
C'est vrai.
Donc voilà, plusieurs choses intéressantes. On va augmenter la réparabilité des produits. Agréer des constructeurs, des réparateurs pour réparer les Chromebooks. Ils vont même déployer des mises à jour pour accélérer les réparations. Et ils vont même enlever aujourd'hui, je ne sais pas si tu as déjà utilisé le mode recovery de Chrome Recovery pour balancer à nouveau Chrome OS dans ton Chromebook. Aujourd'hui, il faut se passer par une clé USB. Tu sais, tu es obligé de faire ton mode recovery clé USB. Mais il y a quelques temps, Google avait lancé un programme pour dès que tu redémarres ton Chromebook, que tu le connectes à Internet, qu'il aille chercher directement la mise à jour. Et donc, ça y est, il le lance enfin à plus grande échelle. Donc, on va gagner en temps de réparabilité puisqu'ils estiment que ça va mettre à peu près 50% de moins de temps pour relancer un ordinateur qui est en PLS et grâce à cette mise à jour automatique. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Même si la clé USB, je ne sais pas, c'était compliqué à créer ton recovery boot.
Non. J'ai de temps en temps, j'ai trouvé qu'il y avait des petits problèmes de stabilité. Je ne sais pas pourquoi. Après, ça s'est vachement amélioré avec la sortie de Flex. Avant c'était un peu plus compliqué. Depuis qu'il y a Flex, tu peux faire des clés très facilement. Ils ont un petit peu amélioré leur outil pour que les gens puissent justement adopter, ceux qui savent un peu bidouiller puissent adopter un petit peu Flex et le tester sur leur machine. Non, mais c'est franchement, c'est pas très difficile, hein. T'as une petite extension, je sais plus son nom d'ailleurs, je l'ai là, elle s'appelle
Chrome Recovery, je crois.
Ouais, Chrome Recovery, ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, tu cliques dessus, tu peux formater ta clé. Tu peux même installer d'ailleurs l'OS de ton choix. Tu n'es même pas obligé. Tu peux même faire un ISO de Linux ou de ce que tu as envie. Hein. Ça permet de sous Chrome OS en tout cas de pouvoir créer des clés USB bootables, peu importe l'OS choisi.
Ouais. Dans le chat, on me dit, ces jeux et programmes sous Linux qui nous dit ce serait bien qu'on puisse installer d'autres systèmes d'exploitation sur les Chromebooks. Alors oui, franchement, est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce que tu n'as pas meilleur temps d'acheter une machine autre que ça, qu'un Chromebook, puisque tu auras peut-être besoin de plus de puissance? Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain.
C'est
hyper puissant au départ. Hein.
Ben non, c'est ça. Et puis ça dépend, tout dépend du budget. Après, c'est sûr que tu peux avoir un Chromebook qui tourne vachement bien sur, qui peut faire. Quel est l'intérêt finalement de le faire? Puisque quand tu choisis un Chromebook, c'est parce que tu choisis un OS avant de choisir une machine. C'est ça. Et en plus, on a tout à fait la possibilité d'installer Linux sur. Enfin, on peut utiliser une VM sur Chrome OS. Donc, si on enlève du coup Linux, qui a aucun intérêt. Alors, si peut-être certains bidouilleurs ont un intérêt de l'avoir en dual boot. Mais en dehors de ça, installer Windows, je vois pas trop l'intérêt, quoi.
Oui, Windows peut-être pas, mais Linux, oui, pour certaines
distributions
Linux, je te comprends.
Pour, oui, moi aussi, ouais, voilà.
Une autre innovation, enfin pas innovation, ça vient pas forcément de Google, mais Jean-Luc m'en parle et effectivement, j'allais pas en parler, mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est une initiative qui s'appelle Framework, tu en as peut-être entendu parler. C'est un constructeur, un Framework, qui fabrique des produits totalement réparables, totalement modifiables à souhait. Donc en fait, tu fabriques ton Chromebook toi-même et tu achètes les pièces détachées quand tu en as besoin. Si ton écran casse, tu as juste à racheter cette pièce-là et à changer uniquement la pièce, le clavier, les composants, et Framework a sorti un produit en partenariat avec Google dédié à Chrome OS et c'est vraiment génial. Allez jeter un œil. Alors pour l'instant, c'est un petit peu cher, je trouve, mais si le marché s'en accapare un peu, fort possible que ce prix baisse, et si Google veut pousser un peu les choses, il y a peut-être des chances pour qu'on ait des appareils plus petits et moins chers et réparables à souhait. D'ailleurs, un Chromebook, c'est plus économe également en énergie maintenant et c'est fabriqué de manière durable. Ça, tu le savais, hein, je t'apprends rien. Économe en énergie, pour plusieurs raisons, tu l'as vu, on en a parlé juste à la préparation. Google lance... alors, c'est en 117, je crois que je t'ai dit tout à l'heure.
Ouais,
on corrigera dans le chat. Ils ont rajouté deux fonctionnalités qui sont hyper intéressantes, je pense. Alors, tu vas m'en parler, je pense, la charge adaptative qui est introduite pour prolonger la durée de vie des batteries de nos Chromebooks, parce qu'on les charge tellement souvent qu'il fallait trouver quelque chose pour éviter de les user. Et qu'est-ce que tu peux me dire de la charge adaptative sur Chrome OS ?
Déjà, il y a une chose, avant de parler de la charge adaptative, c'est qu'on ne les charge pas si souvent que ça, finalement, nos Chromebooks. Parce que comparé à d'autres machines sur d'autres OS, par exemple, la batterie tient tellement longtemps. Moi, finalement, c'est la première fois depuis que j'ai un Chromebook que je n'ai pas peur de le prendre et de me dire, ah là là, il faut que je surveille la batterie, donc je sais que je peux partir pendant un moment et je suis tranquille. De limite, des fois, j'oublie le chargeur tellement j'en ai plus l'habitude. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a encore des gens qui ont peut-être cette peur de la batterie qui lâche. Et donc, Google a installé donc une nouvelle fonction qui va s'appeler donc charge adaptative et qui va bloquer la charge de la batterie à 80%. Pour éviter de faire des cycles redondants et qui ne servent finalement pas à grand-chose. Donc, je trouve que c'est une bonne idée, même si je trouve que voilà, si vraiment on se sert bien d'un Chromebook, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Peut-être pas forcément, mais en tout cas, c'est là. Ils vont le mettre en place et c'est plutôt pratique. Ça va permettre de garder… Mais déjà, c'est en cohésion avec les 10 ans de mise à jour. C'est-à-dire que si on veut garder un OS à jour pendant 10 ans, il va falloir que la batterie suive. Après, si c'est évidemment facilement réparable, ça va. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du mien, qui ne se dévisse pas. Donc, je sais que quand la batterie sera morte, ça va être la galère. Mais du coup, c'est une fonction, moi, qui va peut-être me sauver 2-3 ans de mise à jour, justement.
Oui, mais tu as raison totalement. Hein. On charge peu. Hein. En moyenne, les Chromebooks sont entre 10 et 12 heures d'utilisation intensive. Et tiens, pour la petite histoire.
Et c'est pas du flan. Et c'est pas du flan.
Ah non. J'ai fait un test. Mon Chromebook 713, il vit mal sa vie. Hein. Avec moi, il n'est pas au bon endroit. Je ne suis pas quelqu'un de. Alors, c'est le Chromebook que j'utilise pour faire tous les articles et tests pour My Chromebook. Donc, il est. Il subit quand même. Hein. Il passe de bêta à Canary. Je le jette dans mon sac. J'en prends pas forcément soin. Et je dirais que c'est fait exprès pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Et je le charge pas bien. Je le charge un peu n'importe quand. Je le charge avec un peu n'importe quoi comme chargeur. Le premier que je trouve, je branche dessus juste pour voir ce que ça donne. Donc ouais, on fait des tests. Hein, le pauvre, il vit pas forcément bien sa vie. Mais tu vois, j'ai joué cette semaine, j'étais en déplacement. Donc j'ai joué à un jeu que tu connais qui s'appelle Starfield. Pour la petite histoire, donc j'ai pris mon Chromebook. Je suis resté une semaine à l'hôtel et je n'ai pas chargé une seule fois mon Chromebook. Et j'ai joué en moyenne 2 heures par soir, donc pendant 5 soirs. Donc tu as 10 heures d'autonomie. Et je n'ai fait que ça avec. Hein. J'ai fait que jouer avec lui et Starfield quoi. Donc sur du cloud gaming.
Oui, hein. Comme on joue via le navigateur, ça consomme pas plus que si on était en train de surfer ou regarder une vidéo quoi.
C'est ça.
Ça change pas grand chose quoi. Tiens d'ailleurs, on peut préciser qu'il y a 3 mois offerts en ce moment de Nvidia GeForce Now, puisqu'on parle de Starfield. Ouais. Pour tous les gens qui ont un Chromebook, vous allez dans les perks. Je sais pas comment on dit en français les avantages, c'est ça.
Avantages.
Avantages Chromebook. Il y a une page et vous avez droit à 3 mois sans mettre de carte bleue, sans rien. Vous avez un compte premium pendant 3 mois pour tester Starfield, par exemple, si vous avez un
Xbox un Cloud derrière.
Voilà, ouais. C'est ça.
Et c'est génial hein, qu'il l'ait intégré d'ailleurs dans GeForce Now, parce que moi je joue clavier-souris, je déteste la manette. Et alors, clavier-souris, je suis à nouveau content de jouer parce qu'à la manette j'étais nul sur Starfield, j'arrivais pas à viser, c'était très compliqué. Et là, waouh!
C'est sûr que c'était la manette ou c'était.
Je ne maîtrise pas la manette. La manette va bien. C'est une manette Stadia en plus. Mais non, je ne maîtrise pas la manette. Et clavier-souris, je suis beaucoup plus à l'aise parce que j'ai toujours joué comme ça. Et je redécouvre le jeu et du coup mon Chromebook parce qu'il passe un level hein, avec ça. Hein, donc en premium, en plus, si ton Chromebook est 4K, tu as l'affichage 4K, je crois, dans mes souvenirs. Problème, hein.
Ouais,
franchement, c'est vraiment intéressant. Toujours dans la continuité d'une autonomie meilleure pour les Chromebooks, Google lance une nouvelle fonctionnalité aussi dans Chrome OS 117, c'est l'économiseur de batterie. En gros, si tu sais pas ce que c'est, ça limitera, ça désactivera les processus qui consomment beaucoup d'énergie. Typiquement, tu as un onglet qui tourne en tâche de fond pour rien, c'est fini ça. Il va automatiquement le désactiver.
Comme sur les smartphones en fait, hein, ça va être exactement la même chose. Dès qu'on va arriver à 20%, hop! Tout coupe.
Il met en veille et ça sera pareil pour les applications parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, quand tu ouvres une application sur Chrome OS, elle s'ouvre quasi instantanément, surtout si tu l'avais déjà ouverte auparavant, parce qu'en fait elles ne se ferment pas vraiment, elles sont toujours là, elles dorment, elles sont en veille, hein, c'est comme le multitâche de ton smartphone, donc là ça tue les tâches inactives et ce qui est sympa c'est que quand tu le rouvres, il n'y a presque pas de latence pour réactiver la fonctionnalité. Moi, je trouve ça vraiment simple. Ouais, c'est vraiment bien pour ça. Tu l'as pas encore, hein, je crois pas, l'économiseur de batterie.
Écoute, je suis passé en dev cet après-midi et j'ai pas eu le temps de jouer avec encore, mais je vais regarder ça demain. Ouais.
Je crois qu'il y a un flag à activer hein, encore.
J'irai voir sur un salon Discord particulièrement pratique avec des gens bien qui connaissent tous les flags par cœur.
Des gens avisés, effectivement. toujours dans la durabilité des Chromebooks, on l'a vu, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, j'en passe, hein, il y en a sûrement d'autres, qui créent des Chromebooks totalement fabriqués de manière durable, avec un focus sur l'utilisation des plastiques qui sont issus des océans. On en avait parlé, tu sais, les PCR, les matières plastiques, et on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui fait les petites paillettes sur les appareils plastiques. Moi, je trouve ça. Moi, je pense que ça devrait être la norme, tu vois, que ça devrait être la beauté. Ça,
on est d'accord.
L'aluminium. Et aujourd'hui, tu le trouves peut-être moins joli, moins chiadé qu'un alu ou qu'un titane, mais ça devrait être la norme parce que, en fait, c'est du plastique qu'on récupère, qu'on recycle. Et si tout le monde dit que c'est du haut de gamme, et si les gros de ce monde en faisaient des produits haut de gamme, tout le monde adorerait ça, en fait. Donc, c'est ça qui est génial. Chez Acer.
On est toujours de l'autre côté de l'écran, de toute façon. Tu ne regardes pas le capot en permanence. Voilà, ouais. Donc,
effectivement.
Tu trimbales.
Ouais, mais moi, j'aime bien en plus. Je trouvais ça joli sur la serre. Bref.
Starbucks, quoi. Tu le poses devant toi au Starbucks.
C'est pour faire croire que tu travailles, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais.
ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont pensé un peu tout, hein, d'ailleurs, tous les cartons, il n'y a plus de plastique dedans, les étiquettes collées sur le châssis de ton Chromebook, elles sont collées avec une colle spécifique biodégradable, et s'ils peuvent ne rien coller, ils ne collent pas, on l'avait vu avec le Vero, hein, ils l'ont carrément gravé dans le plastique plutôt que de mettre une étiquette papier, et puis les cartons, moi ça m'avait amusé, le carton du Acer Vero 514, tu pouvais le transformer il était recyclable, mais tu pouvais le transformer toi-même en carton d'emballage pour faire une boîte, pour mettre, je sais pas, tous tes chargeurs qui traînent, tous tes trucs. Tu pouvais même avoir un espèce de petit trépied pour resurélever ton appareil, pour ventiler encore mieux ton processeur Intel qui est dedans. Donc, les constructeurs se sont vraiment lancés dans une course à l'écologie avec des produits qu'on ne jette plus finalement, et même l'emballage on ne le jette plus, on peut s'en resservir, et puis c'est du carton recyclé également, donc on peut et recyclable, c'est important dans le Vero 514 d'ailleurs.
N'allez plus chez Ikea acheter des étagères, acheter 10 Chromebooks et gardez les cartons et fabriquez votre étagère avec.
En plus vous aurez plein d'écrans comme ça, c'est cool. Et d'ailleurs, bah, justement, en bonne nouvelle, il y a plein de constructeurs qui se lancent. Hein. 12 nouveaux Chromebooks vont être lancés cette année et l'année prochaine avec des composants recyclés, donc pièces réparables et PCR. Donc, tous les constructeurs se lancent à faire des Chromebooks très haut de gamme avec des composants recyclés ou réparables totalement. Moi, j'adore. Ça augmente forcément la durée de vie de nos appareils et bah, ça permet de faire évoluer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore dessus sur les appareils recyclés? Si, bah, je le disais tout à l'heure, hein, les écoles qui réparent eux-mêmes leurs appareils, tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas d'ailleurs, certains peuvent, si tu répares ton appareil, si tu le tiens longtemps en état, tu peux peut-être le revendre ou recycler et Google va mettre en place des points de recyclage pour des revendeurs qui pourront racheter les Chromebooks et les revendre après les avoir mis en état. Donc, ils vont enlever toute la partie administration ouais. scolaire. Donc, puisque quand tu achètes un Chromebook scolaire, attention, faites-le pas d'ailleurs s'il n'est pas sorti du parc de l'école ouais. parce que votre Chromebook il serait inutilisable. Donc, ce n'est pas forcément très judicieux. Et c'est un peu le concept. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas pour faire n'importe quoi avec un Chromebook. Donc, Google va lancer agréger des revendeurs pour récupérer les Chromebooks directement auprès des écoles, les réparer s'ils peuvent, les recycler s'ils ne peuvent pas les recycler, s'ils peuvent pas les réparer, récupérer les pièces, les reconditionner. Et puis, en échange, Google et les revendeurs donneront des crédits pour pouvoir racheter de nouveaux Chromebooks si jamais on ne peut pas faire autrement. Et ce qui est amusant, ça m'a fait sourire d'ailleurs dans le blog de Google, ils ont une partie où ils expliquent qu'ils vont mettre en place sur Google Maps directement les points de recyclage des Chromebooks à proximité. Donc en fait, si tu ne sais pas où le ramener, tu vas sur Google Maps, alors pas encore en France apparemment, mais tu iras sur Google Maps et tu diras bah, je veux recycler un Chromebook, puis il va te géolocaliser directement et te proposer le revendeur le plus proche de chez toi. Donc moi je trouve ça intéressant.
Autant utiliser le service maison. Hein.
Bah tant qu'à faire. En plus il est bon, donc tant qu'à faire, allons-y. Hein.
C'est le meilleur.
Ouais, et ça va l'être encore longtemps si les autres ne s'énervent pas. On continue cette fois, plus d'écologie, mais quand même un petit peu, parce qu'il y a des évolutions aussi sur Chrome OS, et je voulais en parler un petit peu. Sur Chrome OS 117, ouais, je vais y arriver, je suis perdu avec les versions. Hein,
ça, c'est sur le 116, ça y est. Hein,
116, ah oui, 116, ouais.
Oui, oui, c'est dispo, hein. Tout est dispo.
Donc, sur la Chrome OS 116, une belle mise à jour, les diagnostics avancés dans Chrome OS. Alors, j'imagine que tu sais diagnostiquer dans ton Chromebook, tu vas en bas à droite, paramètres, plus, et puis diagnostic. Et là, tu as tout un tas de diagnostics pour ton Chromebook, donc tu peux vérifier.
Dans la barre de recherche directement, tu peux taper diagnostic.
Ouais, exact, c'est encore plus rapide. C'est encore plus simple. Comme ça,
ça touche tout, comme dirait Mr. Robot.
Le touche-tout, mais ça rentre, hein, le touche-tout. Donc, la diagnostic, tu vas diagnostiquer le processeur, la batterie, tu vas diagnostiquer ton clavier, cycles de charge aussi. Et moi, je trouve ça vraiment super bien parce qu'avant, ça existait déjà, mais c'était des extensions qui avaient été fabriquées et disponibles sur le Chrome Web Store. D'ailleurs, qui a eu une belle évolution graphique, là, d'ailleurs, le Chrome Web Store, allez jeter un œil, vous verrez,
c'est
magnifique.
Ouais,
je me tâte à demander aux développeurs, à Sylvain qui nous fait le site, qui maintient le site en place, de nous faire la même interface. Je la trouve chiadée super bien, donc je vais voir avec lui. Donc les diagnostics, ben, tu vas y avoir accès maintenant encore plus rapidement. C'est génial, mais ça sera encore mieux demain, puisqu'en fait, tu auras juste à taper dans le... Tu appuieras sur la touche tout, donc Everything Button, et tu taperas CPU. Et automatiquement, tu auras une petite réponse automatique qui te donnera les diagnostics sur ton CPU. Tu pourras faire la même chose avec la RAM, avec tout, en fait, directement dans le lanceur d'application. Je trouve ça vraiment bien de donner autant de lisibilité et aussi facilement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu utiliserais, toi. Est-ce que...
Pour l'instant, tout marche bien, non, mais je l'ai testé, je suis quand même allé voir. Et c'est... De toute façon, regarde, si par exemple, tu as de la famille qui dit « Tiens, mon ordi, il y a un truc qui ne va pas », la première chose que tu vas faire, c'est aller voir là-dedans. Donc, c'est bien que ça y soit, en tout cas, même si tu ne t'en sers pas tous les jours, et c'est évident qu'on ne va pas s'en servir tous les jours. Enfin, en tout cas, je ne le souhaite à personne, sinon ça veut dire qu'il y a des soucis. Mais voilà, ça, c'est mis en place, ça fonctionne bien, on y trouve tout ce qu'on a besoin de savoir sur sa machine. Voilà, c'est bien qu'il l'a ajouté, quoi.
Ouais, non, mais c'est top, hein. Franchement, essayez, ouvrez le lanceur, tapez CPU, vous verrez tout de suite ce que ça donne. Autre nouveauté que j'apprécie particulièrement, moi, et que vous pouvez faire ce soir si vous êtes sur Chrome OS 116, c'est le copier le cadre de la vidéo. Ouais, et je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ce cas où tu suis une conférence sur YouTube et tu aimerais faire un screen de la vidéo, sauf que tu as le lanceur d'application, il y a le bouton
Play, ouais, il faut l'en bas.
Ah, c'est super chiant.
Si tu ne veux pas toute la page, il faut que tu cadres avec ton petit pointeur. Ouais, et puis là, en plus, c'est 10 fois plus rapide, quoi. Clic droit, paf. Terminé.
Clic droit, voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir copier le contenu de la vidéo en qualité, pas la qualité du visionnage, mais la qualité de la vidéo en elle-même, comme elle a été implémentée sur YouTube ou n'importe quoi d'ailleurs. Donc, même si tu regardes en 360 ou en 240, tu peux, si la personne l'a mis en 4K, tu peux récupérer l'image en 4K. Donc, l'idée, c'est de copier une image, faire une capture d'écran d'une vidéo, qu'elle soit YouTube ou n'importe où. À la source directement, ouais, magnifique. Ouais,
plutôt que de prendre le flux de ton propre écran, ouais.
Ouais, et ça marche super bien. Et pendant la conférence Apple, je l'ai fait parce qu'on m'avait demandé des screens et ça m'a permis d'aller vachement vite. Alors sur YouTube, petite subtilité, il faut faire deux clics droits de suite, hein, parce que le premier, c'est le menu YouTube qui apparaît pour régler le son, les choses comme ça. Et le deuxième clic droit, c'est le menu Chrome qui apparaît.
On aura probablement un raccourci clavier peut-être plus tard, à fouiller, à fouiller. Ouais, et oui, effectivement, surtout pour nous, tu vois, comme on fait souvent des articles, on a besoin de prendre des extraits, on n'a peut-être pas forcément toujours le droit de tout prendre. Ça va changer la vie, ça va faire gagner énormément de temps, quoi. Et puis en plus, tu vois, quand ça sort d'un Chromebook, c'est un format un peu différent d'ailleurs. C'est du WebM, un truc comme ça.
Du WebM, tout à fait.
Bon, après, tu as juste à le renommer MP4, ça marche très bien. Hein, mais ça fait gagner du temps, quoi. Ça évite de devoir viser ta vidéo, de la cadrer, naninana. Non, là, tu cliques, ça enregistre directement sur ton Chromebook. Et ça
enlève même, tu sais, des fois, tu as le logo qui apparaît en haut à droite.
Ça prend aussi le fichier à la source. Mais oui,
du coup, ça prend directement la vidéo. Donc
ça n'a pas la superposition publicitaire de YouTube, on va dire. Voilà.
Ouais. C'est ça, tout à fait. Dernière évolution que je voulais mettre en avant, que j'adore personnellement, c'est la sauvegarde de groupes d'onglets. Alors, je ne sais pas si tu utilises les groupes d'onglets romains actuellement. Oui, évidemment. Les groupes d'onglets, c'est énorme. Tu peux nous en toucher deux mots sur les groupes d'onglets, peut-être ?
Comment te dire ? Tu as forcément des fois plusieurs usages. Tu as besoin par exemple d'avoir ton InnoReader d'un côté. En fait, moi je les mets par catégorie, si tu veux, je les range par catégorie. Ouais. Et en fait, des fois, tu as quatre sites à ouvrir d'un coup et tu ne vas pas t'amuser à chaque fois à le faire en manuel. Là, tu ouvres ton groupe d'onglets, tout s'ouvre d'un coup et tu as tous les sites dont tu as besoin pour ton usage de travail par exemple ou pour des routines. En fait, pour moi, c'est un système de routine. Hein. Ça permet de gagner du temps sur une routine et de productivité, c'est juste extraordinaire, quoi.
Totalement.
Et, hein, ça manquait. Ouais, avant, il fallait passer par des bureaux, mais les bureaux n'enregistraient pas. Il me semble que les bureaux n'enregistraient pas les onglets.
Quand tu maintenant ça a changé, mais ouais, effectivement, le groupe d'onglets, tu crées un groupe d'onglets, tu fais un clic droit sur l'onglet, tu fais créer un groupe, tu mets une couleur, un nom, enfin bref, tu mets ce que tu veux dessus. Et après, tu glisses les onglets dedans, un simple glisser déposer, ni plus ni moins. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est que moi, j'ai toujours un milliard d'onglets ouverts simultanément. J'ai mon onglet Chromebook où je mets toutes mes listes de trucs que je suis en train de faire. Donc, par exemple, là, tu vois, j'écris les articles de toute la semaine, ils sont tous en cours d'écriture, là. Ouais. Mais il n'y en a aucun de fini, mais j'ai pas envie de m'embêter à les rouvrir, les refermer. Donc en fait, j'ai un groupe d'onglets qui s'appelle Work et donc je l'ouvre, je ferme quand j'en ai besoin. Ça m'évite d'avoir toute cette ribambelle d'onglets ouverts et de plus savoir quoi faire. Et j'en ai 4-5 comme ça. Hein, Work, j'ai réseaux sociaux, ils sont tous mis là. Je les ouvre, je les ferme quand j'en ai besoin et ainsi de suite. Ça me remplace pas mal mes bureaux. Bon, après, je travaille toujours avec des bureaux. Mais jusqu'à présent, quand tu fermais ton navigateur, tu les perdais tout simplement. Hein. Mmh. C'était pas très compliqué. Tu avais fait tout ton petit rangement et quand tu revenais, il n'y avait plus rien. Google a compris que ça m'énervait. Et donc, ils ont sorti le système de sauvegarde de groupe d'onglets. Je trouve ça génial. Parce que quand tu fais, donc maintenant, quand tu vas faire ton clic droit sur ton groupe d'onglets, tu vas pouvoir sauvegarder le groupe d'onglets. Et une fois qu'il est sauvegardé, il vient se mettre dans la barre des favoris Chrome. Tu sais, la barre avec tous tes favoris qui apparaissent. Mmh. Quand tu cliques sur la petite étoile, il apparaît tout à gauche et de la couleur que tu as choisie en plus. Et ça te donne un truc hyper sympa à lire. Et tu rouvres ton groupe d'onglets n'importe où, même si tu n'as pas ton navigateur. Il manque qu'une chose. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais il manque manque une chose, c'est que pour l'instant, c'est pas synchronisé avec, avec le compte Google. Mais j'imagine que ça donc va venir un jour.
Quand tu changes de machine, tu es obligé de. Ouais. Ça va arriver. Mais ça va arriver. Oui, c'est un peu la base de Chrome, hein, c'est de pouvoir retrouver sur chaque machine ses habitudes.
Ouais, et ben, enfin, en tout cas, moi j'adore, c'est pour ça que je voulais en reparler ce soir. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait dire, Romain. Ouais,
oui,
ben, on est bien. Alors, on peut pas quitter un CKB Show sans parler de nos coups de cœur. À chaque fois, à la fin, tu le sais, Romain, c'est presque bien devenu le petit rituel du soir avant d'aller se coucher. On va vous faire découvrir deux ou trois choses qu'on a appréciées ces derniers temps. Vu que tu es l'invité du CKB Show, Romain, il me semble évident que c'est toi qui dois apporter ton coup de cœur du soir. Et donc, je te laisse la main, enfin la voix en tout cas.
Ok, eh ben, je vais vous parler de Spark. Alors Spark, vous le connaissez déjà, c'est un client mail qui, d'ailleurs, pour vous donner la petite information, avant, qui n'était pas très bien optimisé pour Chromebook, qui maintenant l'est. Donc, c'est vrai que, mis à part par Linux, c'était un peu difficile, à part évidemment quand on utilise Gmail, hein, c'était un peu difficile d'avoir un client multi-mail assez qualitatif pour pouvoir gérer ses mails sur Chromebook. Il y avait sur Linux, je crois que vous en avez parlé dans un ancien CKB Show, il y avait Mailspring qui était sympa. En tout cas, moi, Spark, je l'utilise sur Android et je l'utilise sur mon Chromebook, donc, et puis sur d'autres OS d'ailleurs. Et en fait, ils ont mis une nouvelle fonctionnalité qui permet tout simplement de résumer ses emails en un clic. Et de trois manières différentes. Soit vous avez un résumé court, soit un résumé détaillé, ou soit un résumé par point informatif. Et je trouve ça mais ultra, ultra, ultra génial, parce que ça fait gagner trop de temps. Quand vous avez des mails pro à lire qui font une blinde, et vous savez que dans le monde professionnel, des fois, on vous fait des formulations super longues pour vous dire, en fait, on veut juste un document. Là, tu cliques et on te dit, OK, non, en fait, le mail, il te dit juste qu'il veut ça, quoi. OK, d'accord. Et en plus, avec l'IA dans Spark maintenant, vous pouvez répondre avec l'IA pour un truc aussi bateau. Vous pouvez dire, parce que l'IA va comprendre le message qui a été résumé et va proposer de générer une réponse qui est franchement toujours parfaite. En tout cas, on se posait beaucoup de questions, on passait un temps sur les usages de l'IA. Je trouve que ça, c'est un usage très malin de l'IA. Et comme c'est implémenté directement dans l'application, ça fait gagner beaucoup de temps. Du coup, il y a des emails avant que j'aurais peut-être pas forcément lu ou que j'aurais peut-être mis de côté et laissé traîner. Là, je peux les traiter tout de suite en un clic et je sais que le résumé va être comme j'ai envie qu'il soit, quoi, en fait. Voilà.
Non, mais alors
après, c'est payant, je tiens à préciser, il faut payer la version premium de Spark. Le petit avantage qu'il y a, c'est que les fonctions de blocage de domaine marchent beaucoup, enfin, ça marche mieux que certaines autres applications que j'ai pu tester. Donc, quand vous virez un mail que vous voulez plus voir, ben, il reviendra plus jamais. Ça marche très bien. Et puis, ça fonctionne avec le Google Family. Donc, si vous prenez l'abonnement, il y a 6 comptes qui peuvent en profiter. Donc, voilà. Oui. Et puis, il y a un petit quota, mais bon, pour atteindre le quota de l'IA, il faut quand même y aller. En tout cas, voilà, c'est une petite option toute bête, mais vous allez voir, quand vous allez vous en servir tous les jours, surtout si vous traitez beaucoup de mails dans une journée, pour le pro notamment. Dans le privé, ça ne sert à rien, mais dans le professionnel, en tout cas, ça fait gagner énormément de temps. Et puis, les résultats sont vraiment très bons. Voilà, voilà.
Donc, ouais, Spark c'est top. Hein.
AI, ouais.
Ouais, et donc oui, comme tu dis, l'IA commence à nous montrer ce dont elle va être utile pour des usages du quotidien. Google va lancer l'équivalent du ETAI sur Gmail ou des choses comme ça. Mais ouais, allez-y, allez tester, c'est vraiment génial. Tiens, on nous demande, Live Athenium nous demande le prix, tu sais.
Alors, c'est 8,99€ pour un mois et tu peux avoir jusqu'à 6 comptes dans la famille qui peuvent en profiter. C'est cher, hein, je suis conscient que c'est cher. N'allez pas le prendre si vous êtes dans un usage personnel, mais dans un usage professionnel, ça peut faire gagner pas mal de temps en productivité. Après, à vous de voir. En tout cas, moi, je l'utilise parce que je trouve que ça vaut. Il n'y a pas que ça comme fonction avec Spark Premium, mais voilà. Je sais qu'il y a, pour certains, ça peut être compliqué de dépenser de l'argent pour gérer ses mails. Ça peut être compliqué. En tout cas, pour moi, c'est indispensable. Voilà.
Eh ben, c'est top. Si c'est bien pour toi, c'est sûrement bien pour plein d'autres personnes. Merci. Merci Romain pour ce coup
de cœur. Avec plaisir.
Je vais t'en. Alors moi, je voulais en mettre qu'un au début, puis finalement, j'en ai mis deux. Bon, pff, allez, au diable, Livaris. Je vais vous parler de Cali Reaper. Reaper. Vous le savez peut-être pas, mais en France, vous avez la possibilité de bénéficier d'un bonus réparabilité de vos appareils, que ça soit smartphone, bouilleur, appareil photo, télévision, vidéoprojecteur, ordinateur, j'en passe des vertes et des pas mûres. Vous avez l'État, mais donc un bonus de réparabilité. Donc typiquement, vous voulez réparer votre bouilloire, plutôt que d'aller en acheter une, allez voir si elle ne peut pas être réparée. Et il vous donne 10 euros. L'État vous donne un bon de 10 euros pour réparer votre bouilloire. Pour les appareils photo, c'est 20 euros. Pour les télés, c'est 30 euros. Pour les ordinateurs, c'est 45 euros. Et certains vont me dire, ouais, mais c'est ridicule le prix qu'on donne. Ouais, mais vérifiez simplement le prix de la réparation avant de le dire, parce que parfois, c'est un composant qui vaut rien. Hein, une résistance qui vaut quelques centimes, et vous allez payer principalement le réparateur, l'heure de réparation, c'est tout. Donc, ce n'est pas si faible que ça. Et donc, je me suis dit, mais comment on va en profiter, puisqu'on était dans l'ère dans le podcast
l'écologie.
Les ordinateurs les moins polluants, l'écologie, bah forcément, il fallait parler de ça. Donc, Cali Repair, un site web qui vous permet de retrouver les réparateurs agréés autour de chez vous. Donc, si vous voulez le lien, il sera dans les notes de l'émission. Ça me semblait important de vous le mettre en avant. Et puis, je ne pouvais pas vous laisser comme ça sans vous donner quelque chose à écouter cette semaine. C'est Tellington de Super Flame Studio, qui est juste génial. C'est comme tu le disais, Romain, c'est un petit bonhomme qui...
Un YouTuber
qui fait des imitations assez exceptionnelles.
Qui apprend même aux gens à faire des imitations. Tu peux même apprendre à faire Homer Simpson, très simplement. Il parle comme ça, tu vois, il t'apprend à les... Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, quand tu veux faire Homer Simpson, tu fais... D'abord, il faut apprendre à parler comme ça, en saccadant. Et en fait, c'est ses émissions, c'est ce qu'il présente à chaque fois. Et après, tu peux apprendre à faire des... Ouh, finesse, je parle comme Homer Simpson. Et voilà, c'est super flamme, quoi. Je t'entends plus, par contre. Ah, il y a eu un petit...
Petit bug. Ouais. Donc, comme tu disais, il nous apprend à faire Homer, effectivement.
C'est ça. Et il est très, très bon, garçon.
Super Flame Studio qui est là. Ouais, très, très bon. Et donc, il a fait une plateforme où il met des séries audio créées par lui-même, donc des séries policières en l'occurrence, où il fait tous les personnages. Et sur cette plateforme, vous allez pouvoir écouter une série de... Je crois qu'il y a 3 séries là actuellement, de 24 épisodes à chaque fois, qui fait un roman audio, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, qui est vraiment génial. J'adore le son qu'il fait, les voix.
Vous pouvez essayer, c'est gratuit.
Ah oui, c'est impressionnant. Donc, dans la version gratuite, vous pouvez écouter les 2 ou 3 premiers épisodes de la série. Vraiment vous adhérez au projet, il suffit simplement d'aller dans la boutique et prendre l'abonnement. Il y a l'abonnement mensuel, il doit être à 5 euros, 6 euros, je crois, 5,99.
5,99.
Et puis, annuel, il doit être à 60 euros, 50. Ouais, c'est ça, et 60 euros pour l'année. Donc, allez voir, allez écouter. C'est franchement génial. J'adore. J'ai tout écouté quasiment. Il m'en reste plus que 2 épisodes. Donc, quand c'est bien, il faut le dire et il faut y aller. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Romain, je pense qu'on a fait un bon tour de table. Je vous remercie tous d'être passés sur le CKB Show ce soir, de nous avoir soutenus. N'hésitez pas, si vous aimez, si vous êtes restés jusque-là, mettez un pouce sur les vidéos YouTube, 5 étoiles sur l'épisode, donnez-nous vos coups de cœur. Moi aussi, j'aimerais bien avoir des coups de cœur que vous m'amenez, parce que je trouve ça génial de tester des nouveaux trucs, et c'est ça qui m'anime le plus, tester des nouvelles choses, des nouvelles applications. Donc, dans les commentaires sous YouTube, n'hésitez pas à nous laisser, Romain et moi, vos commentaires sur l'épisode. Est-ce qu'on a dit des bêtises? Est-ce qu'on a été juste? Est-ce qu'on s'est fourvoyé dans des explications étonnantes? N'hésitez pas, un petit commentaire, partagez, et puis ceux qui nous aiment encore plus, allez sur patreon.com/mycromebook pour nous soutenir financièrement. Je vous remercie, merci Romain, c'est vraiment très sympa de ta part d'être venu ce soir me soutenir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao, bye bye.
Salut.
Thank you.